France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Paris gagné pour Sébastien Lecornu. Les deux motions de censure contre le Premier ministre ont échoué. L'annonce de la suspension de la réforme des retraites a changé le rapport de force à l'Assemblée. Il n'y a eu qu'une poignée de dissidents au sein du groupe socialiste. Sébastien Lecornu qui va maintenant affronter la bataille budgétaire. Nestlé va supprimer 16 000 emplois d'ici 2 ans. Un dégraissage massif salué par les marchés boursiers. D'autant plus que le géant suisse de l'agroalimentaire affiche d'excellents résultats économiques. Donald Trump menace de frapper le Venezuela. Le président américain veut renverser son homologue Nicolas Maduro, accusé d'être un narco-terroriste. À Caracas, les menaces américaines divisent la population. Le reportage à suivre d'Alice Campagnol. Après ce journal, notre rendez-vous hebdomadaire consacré aux élections municipales, maire pourquoi faire. Aujourd'hui, le combat des élus pour les lignes ferroviaires menacées de disparition. Adrien Toffolet s'est rendu dans le Lot. La survie de Cécile Kohler et Jacques Paris est en jeu, alertent les familles des deux Français détenus en Iran depuis plus de 3 ans. La justice iranienne vient de condamner Cécile Kohler à 20 ans de prison et Jacques Paris à 17 ans, condamné pour espionnage au profit de la France et d'Israël. Les familles dénoncent l'attitude des autorités françaises dans ce drame. Paris qui vient de retirer sa plainte contre le régime iranien auprès de la Cour internationale de justice, alors que la France a toujours considéré que ces deux ressortissants était retenu comme otage d'État. Je vous propose d'écouter Noémie Kohler, la sœur de Cécile.
Nous sommes conscients de la complexité de la tâche pour l'État français. Nous ne nous trompons pas de responsables de cette situation. Ce sont bien les autorités iraniennes qui détiennent illégalement Cécile et Jacques et qui les soumettent quotidiennement à des mauvais traitements, à des actes qu'on peut qualifier de torture depuis 3 ans et demi. Mais l'appel que nous avons reçu mardi marque un tournant. Pour la première fois, de façon explicite, Cécile et Jacques nous ont avertis, sans équivoque, qu'ils étaient arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient endurer et que 3 mois, 2 mois, 1 mois, quelques semaines de plus étaient au-delà de leurs forces. Chaque jour de plus en détention engage la responsabilité de l'État français. Il est désormais question de la survie de Cécile et Jacques. Plus le temps passe, plus les chances de les revoir vivants s'amenuisent.
Noémie Kohler au micro de Nathanaël Charbonnier. La France réclame à nouveau ce soir la libération immédiate de Cécile Kohler et Jacques Paris. Le Quai d'Orsay qui dénonce, je cite, leur condamnation arbitraire selon des motifs totalement infondés. Sébastien Lecornu a donc réussi à prolonger son bail à Matignon, lui qui était encore un Premier ministre démissionnaire la semaine dernière. L'Assemblée a rejeté aujourd'hui les 2 motions de censure visant à le renverser. Celle du Rassemblement national n'a recueilli que 144 voix. En revanche, la motion de la France insoumise a échoué à 18 voix près. 271 députés l'ont voté, alors qu'il en fallait 289. Un succès que Sébastien Lecornu doit à une concession, la promesse de la suspension de la réforme des retraites qui a conduit le Parti Socialiste à épargner le Premier ministre. On retrouve à l'Assemblée Nicolas Ballut, bonsoir.
Bonsoir.
Nicolas, il n'y a eu finalement qu'une poignée de dissidents dans les rangs du PS et de LR.
Oui, l'une des conclusions du rejet de la motion de censure, c'est que la discipline de vote a été plutôt bien respectée en fin de compte, alors qu'ils étaient plusieurs au PS, chez LR, voire Horizon, à se poser des questions et envisager de voter la censure malgré les consignes. 18 voix qui manquent pour renverser le gouvernement, c'est peu, rappellent les oppositions, c'est aussi beaucoup. Au PS, ils ne sont finalement que 7 à avoir voté la censure, les députés socialistes ultramarins et le député Paul Christophe. Même constatation à droite, puisque chez les Républicains, seule la députée des Alpes-Maritimes, proche de David Lisnard, le maire de Cannes a voté la motion. A noter que 2 autres députés ont préféré voter le texte présenté par le RN. Au final, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, Laurent Wauquiez, le patron des députés LR, sont pour le moment confortés dans leur stratégie. Commence désormais une autre séquence, celle de la discussion budgétaire qui promet une bataille serrée pour le gouvernement.
Effectivement, Nicolas, car les oppositions, mais aussi ceux qui ont refusé de censurer le Premier ministre, ont promis d'être vigilants, voire combatifs.
Oui, Sébastien Lecornu doit marier les comptes. Et la future suspension de la réforme des retraites a des conséquences. À droite, le soutien sera le plus exigeant qui soit, texte par texte, amendement par amendement, avait expliqué Jean-Didier Berger à la Tribune. Et le soutien est conditionné.
Ce soutien dépendra du vôtre
Il dépendra du vôtre lorsque nous proposerons de préférer la baisse de la dépense publique aux augmentations d'impôts, lorsque nous proposerons les outils nécessaires à la revalorisation du travail et la lutte contre l'assistanat, lorsque nous proposerons de supprimer les titres de séjour pour soins et de transformer l'AME en aide médicale d'urgence.
De gel des prestations sociales ou des pensions, il ne pourra y avoir, selon le socialiste Arthur Delaporte. Le camp macroniste a perdu le pouvoir. C'est désormais une vision de l'économie et de la société qui doit se traduire dans les textes. Pour lui, ce n'est qu'un début.
Soit ils acceptent nos propositions, soit ils devront partir parce qu'ils seront censurés. Nous ne pourrons pas voter un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui ferait avaler la réforme des retraites en échange du gel des pensions. Ça n'aurait aucun sens.
Le député LFI Éric Coquerel ne croit pas du tout à cette version.
Le gouvernement amorce ce budget en ayant bien l'intention de ne pas changer tous les équilibres de ce budget. Il préférera le fait de dépasser les délais pour le passer par ordonnance. On va essayer de ne pas lui faciliter le travail. D'où un nombre d'amendements restreint.
Tout faire donc pour éviter que les débats autour du projet de loi de finances et du budget de la Sécu ne s'enlisent. Quant au Rassemblement national, selon son porte-parole Laurent Jacobelli, s'il devait y avoir un amendement sur la réforme des retraites...
Probablement que nous le voterons, mais sans illusion, puisque je le rappelle, ce budget ne sera pas voté et qu'à la fin, il n'y aura pas de gel de la réforme des retraites. Ce n'est que gagner un peu de temps, quelques minutes encore, monsieur le bourreau.
Début de la discussion dès la semaine prochaine.
Nicolas Ballu depuis le Palais Bourbon, une bataille budgétaire que prépare déjà Mathilde Panot. La patronne des députés LFI appelle les militants et les électeurs du PS à rompre les rangs avec la direction du Parti Socialiste, Mathilde Panot, qui leur demande de venir aider le pôle de résistance. Fin de citation. L'actualité économique est dominée ce soir par ce plan massif de réduction d'effectifs chez Nestlé. Le géant suisse de l'agroalimentaire veut supprimer 16 000 emplois dans le monde dans les deux prochaines années, dont 12 000 postes de bureau selon le communiqué du groupe. 16 000 emplois, cela représente 6% des effectifs de Nestlé, dont l'action en bourse a bondi de plus de 8% à l'annonce de ce plan. Marie Viennot, bonsoir.
Bonsoir.
Le cours de la bourse, c'est le point noir de cette entreprise qui, sur le plan économique, qui va plutôt bien.
Oui, depuis le point haut atteint il y a 4 ans à 127 francs suisses, l'action Nestlé ne fait que descendre et elle a perdu un quart de sa valeur en un an. Elle était à 76 francs suisses avant les annonces de ce matin et se retrouve maintenant à 82 francs. Preuve que les marchés boursiers ont apprécié le plan qui a été présenté. Un plan qui promet trois choses. Croissance, économie de fonctionnement, d'où les 16 000 suppressions de postes, et création de valeur durable pour les actionnaires. Alors ces derniers n'ont jamais été lésés côté dividendes. Ils sont confortables car Nestlé est une entreprise qui fait des bénéfices chaque année. Plus de 11 milliards 700 millions d'euros l'an passé. Le chiffre d'affaires, lui aussi, est en légère hausse. Sur le plan économique, donc, ça ne va pas si mal. La gouvernance, en revanche, est un problème. Deux changements de PDG soudain en un an et il y a ce scandale à rebondissement sur ses eaux en bouteille. Mais ce qui inquiète davantage les milieux financiers et fait fuir les actionnaires, c'est la dette de Nestlé. 60 milliards d'euros en 2024, 6 de plus qu'en 2023. Or, cette dette supplémentaire, elle n'a pas été contractée pour investir, mais principalement pour racheter les actions de l'entreprise, ce qui contribue à augmenter le cours. Cette pratique récurrente depuis 2017 est allée de pair avec un doublement de la dette. Et même si Nestlé est une entreprise mastodonte, avec ses 277 000 salariés, ses 139 usines et ses 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 60 milliards de dettes, cela fait beaucoup. Alors avec le plan présenté aujourd'hui, le PDG Philippe Navratil veut montrer qu'il va reprendre la barre. On ne sait pas encore à ce stade dans quelle zone géographique les emplois seront supprimés.
Marie Viennot, chef du service économie de France Culture. 5 personnes ont été arrêtées aujourd'hui dans l'enquête sur le meurtre d'un chrétien irakien le 10 septembre à Lyon. Achour Sarnaya avait été attaqué à coups de couteau alors qu'il était en direct sur le réseau TikTok. Un suspect algérien a déjà été arrêté dans cette affaire en Italie. L'enquête a été confiée au parquet antiterroriste. L'Europe muscle sa défense face à la menace russe. La Commission européenne a dévoilé aujourd'hui sa feuille de route pour doter les 27 pays de l'UE d'une capacité militaire interopérable et indépendante. Derrière ce jargon, il y a une urgence. La Russie consacre aujourd'hui 40% de son budget aux dépenses militaires, soit 7% de son PIB. Les Européens sont très loin de ces chiffres, malgré les efforts consentis depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en 2022. On retrouve à Bruxelles Pierre Benazé. Olivier, bonsoir.
Bonsoir.
Pierre, des efforts qu'il va falloir mettre en commun pour affronter un éventuel conflit de haute intensité d'ici 5 ans, selon la feuille de route de la Commission.
Oui, parce que entre 2021 et 2025, les dépenses militaires des Européens sont passées de 218 à 392 milliards d'euros, des investissements de défense qui ont augmenté, par exemple, de 42% l'an dernier. Mais moins de la moitié des armements sont achetés dans l'UE et essentiellement au niveau national, pas beaucoup donc de marchés publics en commun. Alors, 9 domaines prioritaires ont été fléchés. Dans ces domaines, les Européens doivent combler des lacunes industrielles et opérationnelles, comme l'artillerie, la guerre cyber ou les missiles. D'ici mars-avril prochain, la Commission leur propose de monter ce qu'elle appelle des coalitions de capacités qui seront menées par un ou plusieurs pays. Il y a déjà de premiers projets en route. Par exemple, ce mercredi, à La Haye, la première réunion de la coalition sur les drones, chapeautée par Pays-Bas, Lettonie et Croatie. Son objectif, c'est que le système européen de drones sur le flanc Est soit opérationnel fin 2028. Dans chacun des domaines, des étapes sont établies avec des échéances, composition de la coalition capacitaire, identification des projets, mise en place du financement, renforcer l'industrie de défense, gonfler les investissements, soutenir l'Ukraine. Ce sont les 3 piliers de ce travail qui doit pousser l'Europe à se doter enfin d'armements en commun pour les champs de bataille de demain.
Pierre Benazé en direct de Bruxelles. Donald Trump semble décidé à aller très loin pour se débarrasser du président vénézuélien Nicolas Maduro. Le président américain a évoqué hier soir la possibilité de frappe sur le territoire du Venezuela. Washington qualifie Nicolas Maduro de narcoterroriste selon le New York Times. Donald Trump aurait même autorisé la CIA à mener une action clandestine au Venezuela pour le renverser. À Caracas, les nouvelles menaces américaines divisent la population. C'est un reportage d'Alice Campagnol.
Face à la menace américaine, le Venezuela est divisé en deux. D'un côté, les militaires et les partisans de Nicolas Maduro qui s'entraînent, se préparent à une invasion et se disposent à se battre. De l'autre côté, ils sont nombreux, ceux qui veulent une alternance politique. Parmi eux, beaucoup voient dans l'intervention étrangère une opportunité, comme Olga, retraitée.
Et la única manera.
C'est la seule solution, les élections. Il y en a eu des votes ici, et les gens meurent toujours de faim, et rien ne change. Rien.
Cependant, une confrontation militaire est-elle vraiment souhaitable? Non, selon Carlos A. Romero, politologue.
Une solution militaire serait loin d'être une bonne chose pour le pays. C'est pour cette raison que cela me rend très triste que beaucoup de dirigeants vénézuéliens, parce qu'ils sont désespérés, mais aussi par démagogie, car ils voient bien dans les sondages que cette option militaire est très populaire, que ces dirigeants se soient positionnés du côté de la guerre. C'est évident qu'ils ne l'ont pas étudiée de près et ne la connaissent pas, la guerre.
En effet, la très populaire dirigeante de l'opposition, Maria Corina Machado, désormais lauréate du prix Nobel de la paix, a longtemps appelé à l'intervention extérieure et elle considère Donald Trump comme son meilleur allié.
Alice Campagnol, correspondante à Caracas, la capitale du Venezuela. Hier soir, Nicolas Maduro avait condamné, je cite, les coups d'État fomentés par la CIA en Argentine ou au Chili par le passé. C'est un rapport sévère pour l'Église catholique et il émane du Vatican. Une commission du Saint-Siège affirme que l'Église néglige les victimes d'abus sexuels en son sein. La commission pontificale pour la protection des mineurs a rendu aujourd'hui son 2e rapport. Créée il y a une dizaine d'années, cette commission n'est pas là pour sanctionner les abus, mais pour dresser un état des lieux des mesures de prévention, protection et accompagnement des victimes. L'objectif étant de partager les bonnes pratiques dans les églises locales du monde entier. On retrouve à Rome Bruno Duvic.
Il y a 1 milliard 400 millions de catholiques. La commission ne peut pas examiner la situation des diocèses, les départements de l'Église dans le monde entier. Elle donne donc des coups de sonde. Une vingtaine de pays examinés cette année, beaucoup en Afrique. Monseigneur Ali Herrera, le secrétaire de la commission.
Il y a une résistance culturelle de l'Église, mais aussi dans les cultures locales. Une résistance à affronter ces problèmes sans détour.
Sin pelos en la lengua.
Parfois, la commission ne parvient pas même à entrer en contact ou recevoir des réponses à ces questionnaires de la part des églises locales. Et l'Italie, objet d'une longue analyse, fait partie de ces pays où la résistance culturelle est très forte. Seul un diocèse sur 3 a répondu au questionnaire sur les mesures de protection mises en place. Ce 2e rapport appelle à un effort supplémentaire de transparence quand un clerc ou un évêque est sanctionné après des abus ou des négligences dans la dénonciation. Le motif de la sanction doit être rendu public. Il doit y avoir des excuses publiques. Cette commission n'a qu'un pouvoir consultatif, mais elle a une force, selon son président français, Mgr Verny.
L'aspect public de ce rapport annuel, le temps joue avec nous. Mais c'est un travail qui s'inscrit dans la durée.
Durée difficile à supporter pour les victimes qui ne se sentent pas assez écoutées, voire respectées, dit le secrétaire de la commission.
Bruno Duvic, correspondant de France Culture à Rome. Le temps demain restera calme et ensoleillé sur la plupart des régions. Les températures sont stationnaires, entre 3 et 15 degrés pour les minimales, de 14 à 25 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alixon Vicrobeck. À la technique, il y avait Paul Guigues.
France Culture, élection municipale 2026. Maire, pourquoi faire ?
Septième épisode de notre rendez-vous hebdomadaire consacré aux enjeux des élections municipales de mars prochain. On s'intéresse ce soir aux lignes ferroviaires, question cruciale pour la desserte des territoires. Selon les données de la SNCF, 4000 km de ces lignes sont menacés d'un effondrement de la qualité du service d'ici 2030. Cette dégradation du réseau, de nombreuses associations d'usagers la constatent déjà. Exemple, dans le Lot, depuis les années 90, les élus du département du Sud-Ouest se battent contre la disparition des gares et la détérioration du service. Les maires sont en première ligne dans ce combat, comme celui de la petite commune de Dégagnac. C'est un reportage d'Adrien Toffolé.
Bonjour.
Monsieur Pugnier, enchanté.
Nous sommes à environ 90 km au sud de Brive-la-Gaillarde et 30 km au nord de Cahors, le petit village de Dégagnac qui a toujours sa desserte ferroviaire sur la ligne TER Brive-Toulouse, notamment grâce à son maire Didier Pugnier.
C'est un peu la galère actuellement. On est allé jusqu'au blocage des trains en descendant sur les voies, ce qui est illégal.
Des années à se mobiliser comme maire et avant même d'être élu comme fils de cheminot qui a vu le service public se dégrader, en particulier l'intérêt cité qui circule sur la même ligne que le TER, la POLT, pour Paris, Orléans, Limoges, Toulouse, utilisée par 2 700 000 voyageurs tous les ans et qui souffre depuis des années de sous-investissement.
Moi j'ai une fille qui habite à la région parisienne et quand elle vient, ce n'est pas rare qu'il y ait 4 heures de retard. Des fois le train qui arrive vers 18h40 à Gourdon, il y a pas longtemps, c'est 1h du matin que je suis allé chercher à Gourdon. Encore, elle a eu la chance qu'il y ait un train qui passe par derrière, sinon j'allais chercher à Brive. C'est fantastique quand même.
SNCF Réseau et l'État ont lancé depuis 2018 de grands travaux de rénovation des infrastructures pour près de 2 milliards d'euros avec une promesse d'amélioration de la situation que Didier Pugnier a du mal à croire. Lui qui a participé en avril dernier au train de la colère, une opération lancée par des élus locaux pour aller se plaindre auprès du ministre des Transports d'alors, Philippe Tabarot, qui a finalement refusé de les recevoir.
Les politiques nous promettent la restauration de la ligne. Mais bon, vous savez, ce sont des promesses. Comme on a beaucoup de ministres actuellement qui ne restent pas longtemps, sans compter que le dernier a même refusé de nous recevoir le jour qu'on manifestait, donc on se pose toujours la question si les élus sont considérés et si le peuple est considéré. Dans nos petites communes, ce n'est pas facile d'être maire, vous savez. Et si on n'est pas entendu au niveau national, on se mène à quoi on sert.
Et en première ligne, face à des administrés mécontents, le maire ne peut qu'acter son impuissance.
Beaucoup nous disent, mais en fait, vous ne servez à rien, puisqu'on ne peut pas défendre les intérêts du public. Mais nous, à notre niveau, on n'y peut pas grand-chose par rapport à ça. À manifester, à montrer notre désaccord, mais tant qu'on ne sera pas plus entendu, je crois qu'on n'y arrivera pas.
Parce que c'est l'État, la SNCF et pour le réseau TER, les régions qui ont la charge de ces transports. Le maire doit néanmoins faire entendre la voix des territoires avec des soutiens locaux, analyse Frédéric Ginest. Il est vice-président du département en charge des mobilités.
C'est surtout faire du vacarme politique, interpeller la presse, faire des coups, comme on dit, monter nombreux avec des associations, avec des usagers et aller mettre un peu le bazar à la capitale. C'est pour ça que je crois que dans tout projet municipal, la défense de la gare doit être actée. On doit aller affronter les décisions qui sont prises et qui ont tendance à oublier nos territoires.
Raréfaction des emplois et raréfaction des services publics vont de pair dans ces régions où de plus en plus d'habitants se sentent déclassés. Le désenclavement des territoires est un enjeu démocratique, estime Jean-Marie Vessousfort, ancien maire de Cahors, sénateur socialiste et président de l'association des maires du Lot et d'Occitanie.
Le citoyen, il ne sait pas, lui. Il ne fait pas la distinction, il va voir celui qu'il connaît. C'est le maire. Et il lui parle de ces problématiques-là. Du coup, on se retrouve avec des collectivités qui essaient de résoudre une crise dont ils ne sont pas responsables. Si les citoyens ont l'impression qu'ils ne peuvent pas répondre à leurs enjeux prioritaires, la colère va s'exprimer vis-à-vis d'eux aussi, par des votes qui qui mettent à mal la République. Vous ne votez pas aujourd'hui ici pour les extrêmes, pour des problématiques d'immigration. Hein. Vous votez de colère d'avoir été abandonné par l'État. Donc c'est ça le combat qu'on mène aujourd'hui, qui est un combat juste, qui est un combat d'ailleurs républicain.
La fracture des mobilités qui alimente la fracture rurale et les ambitions notamment du Rassemblement National, qui espère faire élire de nombreux maires ruraux en 2026.
Alors justement, cette fracture des mobilités est bien identifiée par l'État qui a tourné la page du tout voiture et de la priorité donnée aux lignes à grande vitesse. Mais le contexte budgétaire complique les investissements pour rattraper le retard, même si le Premier ministre Sébastien Lecornu vient d'annoncer une loi cadre pour financer une partie de ces investissements. Quels sont les enjeux en la matière? Élément de réponse avec Patricia Pérennes, économiste spécialiste du transport ferroviaire, consultante auprès des collectivités pour le cabinet Transmission. Un entretien mené par Adrien Toffolé.
Alors aujourd'hui, des plans d'investissement ont été lancés ces dernières années par l'État, par SNCF Réseau, par les régions aussi qui ont en charge les TER. Peut-on parler encore d'une situation de sous-investissement dans le ferroviaire ?
Oui, on peut encore en parler parce qu'effectivement, ce que vous dites, il y a eu beaucoup d'annonces. Il y a eu aussi quelques actes, effectivement, notamment par l'ancienne ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui est devenue première ministre après. Il y a eu une augmentation pour ce qu'on appelle le réseau structurant, c'est-à-dire les lignes principales du réseau. En revanche, pour les lignes un peu secondaires et encore plus pour les petites lignes qu'on appelle les lignes de desserte fine du territoire, il y a encore un sous-investissement. Donc voilà, il faut vraiment distinguer le réseau structurant, y compris des lignes, c'est pas que les lignes grande vitesse, là, on va parler de Paris-Toulouse, de Paris-Clermont. Voilà, ces lignes-là, j'ai envie de dire, on s'est rendu compte du problème, elles sont sauvées, enfin, on peut l'espérer. Par contre, voilà, en dehors de ce réseau structurant, là, il y a encore un problème et non, il n'est pas résolu.
Alors la question du financement des investissements est majeure, on vient de l'entendre. Est-ce que c'est suffisant pour retrouver une qualité de service public, j'ai envie de dire, normale et égale sur l'ensemble du territoire ?
Alors, bon, on n'aura jamais vraiment un service égal dans l'ensemble du territoire. Ça dépend vraiment du réseau, comment il est. Est-ce qu'il y a des régions qui avaient la chance d'avoir plus de lignes que d'autres ? Bon, il y a quand même une vraie diversité d'un territoire ou un autre. Une fois que j'ai dit ça, est-ce qu'il y a que le financement ? Bah, c'est vrai que le financement de l'infrastructure, ça paraît vraiment la base. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de rail ou si le rail, il est en mauvais état, eh ben, il n'y a rien qui fonctionne, en fait. Voilà, le Paris-Toulouse ou le Paris-Clermont. Voilà, Paris-Clermont, on en parle beaucoup ces derniers temps parce que, voilà, il n'arrête pas d'avoir des retards et c'est expliqué à la fois par l'infra et aussi par les trains qui sont un peu anciens, certaines lignes. Bon. Malgré tout, au niveau des trains, qu'on appelle le matériel roulant, il y a eu un renouvellement dans les régions. L'État a pris pas mal de retard, mais ça y est, dans quelques années, on aura des trains neufs, y compris pour les lignes qu'on appelle intercités. Et en dehors des trains de nuit, j'ai envie de dire que le matériel roulant, le problème est plutôt derrière nous que devant nous, et maintenant on arrive aux questions d'infrastructure.
Justement, on parle des lignes et des investissements qui ont été faits là-dessus. Il y a une problématique avant cela, c'est celle du nombre de trains à disposition, de la quantité de services en fait, qui est à disposition des citoyens.
Oui, ça c'est un problème qui n'est pas assez évoqué souvent en France, mais qui est un vrai souci quand on n'habite pas Paris en fait. En général, parfois on a une ligne de train, mais ça ne veut pas du tout dire que si vous allez à la gare, dans une demi-heure, il va y avoir un train. Pas du tout. Il y a quand même beaucoup de territoires, notamment sur les petites lignes, où il y a 5-6 trains par jour. Alors, bon, quand c'est dit comme ça, c'est un peu abstrait, mais si on veut être concret, s'il y a 5 trains par jour, ça veut dire que vous avez un train à 7h du matin, un train à 8h du matin, un train à midi, un à 17h et un à 18h. Et c'est fini. C'est tout ce que vous avez comme offre. Donc, si vous travaillez dans un café et que du coup, vous êtes en horaire décalé, bah, vous ne pouvez pas aller travailler. Si vous êtes infirmière et que vous terminez tard, bah, vous ne pouvez pas aller travailler. Donc, en fait, on a quand même ce problème-là qui est quand même assez spécifiquement français, d'avoir une offre qui est très pauvre dans beaucoup de territoires. Voilà. Alors que si on passe la frontière et qu'on va en Allemagne ou en Suisse, bah, s'il y a une ligne de train, il y a des trains de 5h à 23h, toutes les heures ou toutes les demi-heures, et du coup, voilà, on a cette continuité du service qui, en France, on n'a pas, pour tout plein de raisons, des choix qui ont été faits historiquement, et on a l'impression que ce soit les régions ou que ce soit la puissance publique en général, elle ne croit pas qu'il y aurait des gens dans un train à 10h ou à 14h, ou alors s'il y a des gens, il n'y aura pas grand monde, et du coup, ça ne vaut pas le coup.
Garder des dessertes, garder des gares, faire qu'il y ait plus de trains, c'est justement ce pourquoi se battent un certain nombre de maires, en particulier dans les territoires ruraux. Donc, ils sont dans le bon positionnement, selon vous ?
Alors, c'est pas facile pour les maires parce que techniquement, ils n'ont pas de pouvoir du tout par rapport à l'offre. C'est vraiment la région qui décide. Après, parfois, c'est des vraies choses. C'est politiquement, c'est assez dur. Je pense à une ligne qui est la ligne des Hirondelles qui se trouve dans la région Bourgogne-Franche-Comté où il y a besoin de plusieurs dizaines de millions d'euros pour 900 voyageurs, voilà, par semaine. Et du coup, c'est vrai qu'en termes d'argent public, la région se dit, Est-ce que ça vaut le coup de mettre tant d'argent et du coup de sacrifier d'autres politiques publiques, hein, les lycées ou même d'autres trains à d'autres endroits de la région où il y a plus de monde pour sauver cette ligne-là. Et donc, c'est vrai que le maire, qui est un élu local, va dire « Oui, mais c'est ma ligne, c'est ma ville. » Voilà. Et du coup, en attendant, il n'a ni les compétences ni l'argent pour payer lui-même le service. Hein, c'est la région qui paye. Et la région, elle, se dit « Mais attendez, moi, j'ai tout un territoire, j'ai d'autres politiques publiques et voilà, j'ai une somme d'argent qui est déterminée. Du coup, est-ce que je mets plusieurs dizaines de millions pour moins de 1000 voyageurs ou est-ce que je sacrifie cette ligne ?» Et je la mets dans autre chose. Et c'est vrai que c'est pas facile pour les élus locaux, à la fois les maires, de comprendre parfois que c'est trop d'argent, ou en tout cas politiquement ils décidaient que c'était trop d'argent pour trop peu de monde. Voilà. Donc les maires ils ne voient que ça, et puis les élus de région à un moment c'est de se dire en fait on n'y arrive pas et on peut pas faire de miracle quoi.
L'économiste Patricia Pérennes, consultante pour le cabinet Transmission. Maire, pourquoi faire, notre rendez-vous à retrouver sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.